Bonjour à tous et à chacun. Bonjour en particulier à ceux qui nous visitent. Que la grâce de notre Dieu nous entoure ce matin, qu'elle nous porte à l'écoute de sa parole, qu'elle inspire nos méditations et nos applications de ce qu'il voudra bien nous rappeler par le texte divin. Je voudrais lire avec vous quelques passages, d'abord dans l'Ancien Testament et ensuite dans le Nouveau. Le premier passage se lit dans le livre du Lévitique, au chapitre 26, à partir du verset 3. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera pas dans votre pays. Et un peu plus loin, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Un deuxième passage, nous le lisons dans le livre du prophète Ésaïe, c'est un passage très connu, au chapitre 9. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ensuite, nous lirons dans la lettre aux Romains, au chapitre 5, les premiers versets. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et enfin, un passage dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, à partir du verset 13. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Nous sommes donc aujourd'hui à cette date exacte du 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, au 100e anniversaire de la signature de l'armistice, le 11 novembre 1918. Armistice. Il est intéressant de revenir sur la signification de ce terme. Du latin médiéval qui signifie « arrêter les armes », l'armistice est une convention conclue entre les belligérants afin de suspendre les hostilités. Généralement, un armistice suit un cessez-le-feu et précède la conclusion d'un traité de paix pour une paix définitive entre le cessez-le-feu et le traité de paix. Pour une paix durable, définitive. Mais évidemment, dès qu'on a prononcé ces mots, on sait très bien que dans la réalité historique, les choses n'ont pas été d'une durée comme celle qu'on avait imaginée, plus jamais ça. La paix, point d'interrogation. Elle est provisoire, elle est relative, mais elle n'est pas sans valeur. Nous le savons, 21 ans après la signature de l'armistice de 1918, la Deuxième Guerre mondiale, 39-45, a fait bien plus de millions de morts que la première. Depuis 1945, cependant, c'est-à-dire depuis plus de 70 ans, bien des pays, dont ceux de l'Europe de l'Ouest, ont connu une paix relative, mais réelle. Et je suis reconnaissant de la prière de Françoise qui remerciait Dieu parce que nous avons le privilège de vivre dans un pays de droit et de liberté. C'est une réalité, malgré la douloureuse réalité en face, qui est celle de guerres qui n'ont jamais cessé d'éclater et de faire des ravages jusqu'à aujourd'hui dans bien des pays. Des guerres pas moins terribles pour ceux qui les subissent que les deux grandes guerres du XXe siècle. Je voudrais simplement ce matin visiter à nouveau avec vous la signification de ce mot de paix. Vous savez que ce mot, en hébreu, se dit shalom. Quel est le sens de ce mot shalom? D'abord, dans l'Ancien Testament. C'est d'abord le bien-être. Shalom signifie être intact, complet, rétabli dans son intégrité. On l'emploie dans bien des circonstances, par exemple, pour déclarer qu'on a achevé la construction d'une maison et qu'on est, de ce côté-là, tranquille. Il y a bien d'autres applications de ce mot. Le mot shalom évoque un pacte qui permet une vie tranquille. C'est le temps de paix par rapport au temps de guerre. C'est le bien-être de l'existence quotidienne, l'état de l'être humain qui vit en harmonie avec la nature, avec lui-même, et dans le contexte de l'Ancien Testament, bien sûr, avec Dieu. Et il y a des mots qui, sans être synonymes du mot shalom, se rattachent à cette réalité. C'est la bénédiction, c'est le repos, c'est la gloire, c'est la richesse, c'est le salut et c'est la vie. Shalom, c'est le bonheur. Être en bonne santé et être en paix sont deux expressions parallèles. Pour demander comment on se porte, si on va bien, on dit « Est-il en paix ?» Abraham, qui mourut au terme d'une vieillesse heureuse et rassasiée de jours, s'en alla en paix. La paix, c'est la sécurité. Israël n'a plus à redouter d'ennemis grâce à Josué, le vainqueur, à David, à Salomon. Enfin, la paix est concorde dans une vie fraternelle. Elle est confiance mutuelle que sanctionne souvent une alliance ou un traité de bon voisinage. Shalom, c'est aussi le salut, la paix et le salut. Tous ces biens matériels et spirituels sont compris dans la salutation, le souhait de paix, par lequel, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, on se dit bonjour et adieu, soit dans la conversation, soit dans les lettres. C'est un terme qui englobe la totalité de ces bienfaits que nous venons d'énumérer. En même temps, le fait que ce soit un souhait et un souhait constamment rappelé dans les salutations, dit aussi la fragilité, le caractère provisoire de ce bienfait, de ce grand bienfait qui résume tous les autres, le shalom, la paix. La paix, c'est un état à conquérir ou à défendre selon les circonstances. Dans les combats qui ont eu lieu dans l'Ancien Testament, il est question de revenir en paix quand on revient vainqueur, bien sûr. Et puis, en dernier lieu pour cette première partie, la paix se rattache à la justice. Et la justice, vous le savez, dans la définition biblique, c'est la conformité avec la volonté de Dieu. Dans ce sens, la paix, c'est la conformité avec le bien et le rejet du mal. La paix, c'est ce qui est bien par rapport à ce qui est mal. Point de paix pour les méchants, dit le prophète Ésaïe. Les humbles posséderont la terre et goûteront les délices d'une paix insondable. La paix, c'est la somme des biens accordés à la justice, comme nous l'avons lu dans le Lévitique. Terre féconde, manger à satiété, habiter en sécurité, dormir sans crainte, triompher de ses ennemis, se multiplier. Parce que Dieu est là, parce que Dieu est avec nous, parce que Dieu bénit. Tel est donc cette grande bénédiction de la paix. Donc, loin d'être seulement une absence de guerre, la paix est plénitude de bonheur. Plénitude de bonheur. Quand on décrit la paix de cette façon, on se dit, on peut avoir des paix partielles, relatives, on en approche, mais la paix définie ainsi est inaccessible. Alors revenons à la source de la paix et revenons à celui qui est le Dieu de paix. Dès le début de l'histoire biblique, on voit Gédéon, étant des juges, bâtir un autel à Yahvé Shalom, c'est-à-dire à l'Éternel Dieu de paix. C'est de Dieu que l'on attend ce don, ce bienfait, Yahvé l'Éternel est grand, qui veut la paix de son serviteur. Qui se confie en lui peut s'endormir en paix. Et c'est à lui qu'on adresse la prière. Donne la paix, Seigneur. C'est que la paix est un combat contre le péché. L'histoire du temps des juges est édifiante, si on peut dire, à cet égard. Explicite, en tout cas, comme exemple. Que se passait-il au temps des juges ? Dieu suscite des libérateurs chargés de rétablir cette paix qu'Israël a perdue par sa faute. Et c'est tout le schéma qui se reproduit tout au long des récits du livre des juges. Dieu suscite des libérateurs chargés de rétablir cette paix qu'Israël a perdue par sa faute. David pense qu'il a accompli sa tâche quand il a délivré le pays de ses ennemis. Mais le roi idéal qui règne sur le peuple s'appelle Salomon, le roi pacifique, le roi qui préfigure à certains égards le roi de paix. Mais il faut parler un peu de la lutte pour la paix. Et c'est le combat des prophètes. L'idéal de la paix est corrompu par le péché. Les rois, plus souvent ceux d'Israël que ceux de Juda, les rois cherchent à se procurer la paix non comme un fruit de la justice, non comme l'accomplissement de la volonté de Dieu, mais par des alliances politiques souvent impies, c'est-à-dire idolâtres. En plein état de péché, certains faux prophètes osent proclamer une paix durable. Ils égarent mon peuple. Ils annoncent la paix s'ils ont quelque chose à se mettre sous la dent, et ils publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche, dit le prophète Michée. Le don de la paix requiert la suppression du péché et donc un châtiment préalable. Le prophète Jérémie accuse. Ils égarent mon peuple. Ils annoncent la paix. Ils guérissent superficiellement la plaie de mon peuple en disant paix, paix. Pourtant, il n'y a pas de paix. Aux exilés, Dieu annonce, je sais, moi, le dessein que j'ai sur vous, dessein de paix et non de malheur. Vous donnez un avenir et une espérance. La paix est à venir. C'est la paix eschatologique, la paix pour la fin des temps, pour l'accomplissement de toutes choses. Cette paix devient un élément essentiel de la prédication qui porte le regard vers ce qui est devant, ce qui va venir. La paix véritable se dégage des limitations terrestres et de ses contrefaçons pécheresses. Isaïe rêve de ce prince de la paix, nous l'avons lu ensemble, qui donnera une paix sans fin au royaume du Seigneur, qui ouvrira en quelque sorte un nouveau paradis, car c'est lui qui sera la paix de son peuple. Les nations, dit la prophétie ainsi, vivront en paix. Cet évangile, cette bonne nouvelle de la paix, est réalisée par le serviteur souffrant, qui annonce par son sacrifice quel sera le prix de la paix. Dès lors, la paix à celui qui est loin et la paix à celui qui est proche sont annoncées. Les blessures seront guéries. Qui est-ce qui gouvernera le peuple dans ces temps prophétiques? Le peuple sera gouverné par la paix et la justice. Tels sont les gouverneurs du peuple. Je vais faire couler sur Jérusalem la paix comme un fleuve et comme un torrent débordant la gloire des nations. Le serviteur de l'Éternel est venu sur la terre. Et nous parlerons en troisième et dernier lieu de la paix en Jésus-Christ. La paix en Christ. La paix en Christ, c'est l'accomplissement de l'espérance des prophètes. Elle est réalisée parce qu'à la croix, le péché a été vaincu. Mais si les prémices de la paix sont là, la paix demeure un bien à conquérir pratiquement et à savourer dans l'avenir. Nous nous référons à quelques passages de l'Évangile selon Luc. Et d'abord, bien sûr, la proclamation des anges le jour de la naissance de Jésus. La paix est annoncée, elle est proclamée par les anges qui annoncent la naissance de Jésus. Et ce message est redit par les disciples joyeux qui escortent le roi entrant dans la ville de Jérusalem. La paix est venue avec Jésus. Et Jésus l'a lui-même annoncé. La plupart du temps, quand Jésus accomplit son action salvatrice, son action de guérison auprès des malades, des malheureux, des paralysés, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la plupart du temps, va en paix, après avoir accompli la guérison. Va en paix, parce que ce qu'apporte Jésus, c'est bien sûr ce soulagement important pour celui qui est malade, mais c'est surtout la guérison du cœur, la guérison du mal, la guérison du péché. Lorsque Jésus envoie ses disciples pour proclamer que le royaume s'est approché, il leur demande d'offrir aux villes qu'ils visitent leur salutation de paix, leur shalom en Jésus. Le salut qui est venu, qui s'est approché en Jésus-Christ. Mais, comme nous l'avons vu pour l'Ancien Testament, nous le voyons à nouveau dans le Nouveau, parce que nous sommes toujours à l'époque où le péché est sur la terre. Ce salut bouleverse la paix du monde. « Je ne suis pas venu, dit Jésus, apporter la paix au sens illusoire de la paix du monde, mais je suis venu apporter la division. » Nous avons réfléchi sur ces termes il n'y a pas très longtemps. Nous y reviendrons, bien sûr. Et nous retrouvons dans ces paroles qui sont surprenantes, qui heurtent, mais qui disent cette réalité du combat de ce prince de la paix qui est venu s'affronter aux puissances du mal, nous retrouvons cette réalité douloureuse dans les avertissements et les menaces de tout ce qui risque celui, tout ce que risque celui qui se donne à la sécurité trompeuse du monde. Oui, nous avons là deux réalités qui se heurtent et qui sont douloureuses. Les forces du mal s'affrontent avec le prince de la paix, et le prince de la paix sera bien sûr la première et la grande victime de cette guerre entre le mal et Dieu. Nous voyons des textes comme ceux que nous avons lus sous la plume de l'apôtre Paul. Et dans ce que l'apôtre Paul écrit aux églises, nous avons très souvent, vous le savez, dans sa salutation initiale, le fait que l'apôtre lit la grâce et la paix. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ. C'est ainsi que l'apôtre Paul s'adresse la plupart du temps aux églises. Car Christ est notre paix. Que la grâce et la paix soient avec vous. C'est par la rédemption, par la victoire sur le péché, que la paix est apportée comme une conséquence de la victoire de Jésus-Christ à la croix. C'est lui, c'est Jésus qui nous a réconciliés avec Dieu. Il est notre paix. Nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur, car nous sommes justifiés par la foi. La paix est un des fruits de l'Esprit. Étant notre paix, Jésus a réconcilié ceux qui étaient proches, c'est-à-dire les Juifs, et ceux qui étaient loin, c'est-à-dire les païens. Et les deux, il les a réconciliés non seulement en un seul peuple, le peuple de Dieu, mais même en un seul corps. Et il y a là une réalité qui dépasse de beaucoup notre entendement, mais pour laquelle nous bénissons notre Dieu. Il les a unis en un seul corps. Dieu s'est ainsi réconcilié tous les êtres, aussi bien sur la terre que dans les cieux, aussi bien ceux qui étaient proches que ceux qui sont éloignés. C'est donc parce que nous sommes rassemblés dans un même corps que la paix du Christ peut régner et règne dans nos cœurs. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Quelle grâce ! L'apôtre Paul a bien raison de lier grâce et paix. Quelle grâce que celle de pouvoir